Salut les auditrices, salut les auditeurs, c'est Greg et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode, un ultime épisode pour cette saison 4. On va pas refaire l'histoire qu'on a fait dans l'épisode précédent avec Hermano. Hermano que je retrouve pour cet épisode, le dernier de l'année. Hermano, comment ça va ?
Salut Greg, salut cher invité, salut à toutes et à tous. Et bah ça va, c'est la dernière de l'année, donc toujours un petit peu d'émotion bien évidemment.
Ouais, d'autant plus d'émotion qu'on ne sait pas encore trop de quoi l'avenir sera fait pour ce podcast. Il faudra qu'on y réfléchisse un petit peu, mais en tout cas, avant d'y réfléchir, on va aborder une thématique aujourd'hui avec un invité que les auditrices et les auditeurs connaissent bien parce qu'il est déjà intervenu dans le podcast plusieurs fois. Et puis, on a le plaisir de retrouver Fred Bousseau pour parler de trail et on va parler un petit peu aussi de changement climatique aujourd'hui dans cet épisode. Bonsoir Fred, comment ça va ?
Salut Greg, salut Hermano, bah écoute, ça va bien et c'est vrai que le temps a radicalement changé depuis quelques jours puisque là dans les Alpes, on est passé de presque l'automne à subitement l'hiver, donc on va en parler.
Ouais, exactement. Une arrivée tardive des températures plus fraîches, hein, cette saison, c'est vrai que c'était un petit peu tardif, les feuilles ont eu du mal à tomber des arbres et puis c'est un des signes qui montre qu'il y a quand même un petit quelque chose qui se passe au niveau de la nature, au niveau de la réaction de la nature avec le climat. On en parlait dans l'épisode précédent, courir le marathon de New York par 26 degrés, c'était pas habituel et pourtant c'est ce qui s'est passé cette année. Et puis en montagne aussi, on le constate, il fait pas la température qu'il devrait faire, ou en tout cas si on regarde les températures de ces dernières décennies par rapport à ce qui se passe maintenant, c'est plus tout à fait en phase. Et puis tout ça implique des choses au niveau de la sécurité, au niveau de l'organisation de course, et c'est de tout ça dont on va parler dans cet épisode.
Bah ouais, carrément. Et puis en plus, tu l'as dit, on a Fred avec nous, Fred qui connaît bien le sport, le trail, l'ultra trail, et puis en plus qui s'est rendu ces derniers mois sur quelques zones de théâtre d'ultra trail. Je sais que t'étais à l'UTMB parce que je t'ai entendu au micro de Nico du LTP. Je me suis laissé dire que t'étais aussi à La Réunion, donc tu vas pouvoir nous dire aussi un petit peu ce que tu as constaté vu qu'on parle de climat.
Ouais, alors l'UTMB, c'est vrai qu'on a vu aussi des températures plutôt clémentes, hein. On va dire que c'était peut-être une des éditions les plus favorables, alors record à la clé, mais c'est vrai une des éditions où il a fait le moins froid la nuit. Je me souviens au petit matin, c'est sans doute une des seules fois aussi où on n'a pas eu froid du côté de Champais, où ça a sans doute pas gelé du côté du Grand Col Ferret. Et puis, on y reviendra, mais sur l'hémisphère sud, il se passe des choses, alors peut-être moins sensibles que chez nous, mais surtout, en fait, les choses vont jouer sur le déplacement des coureurs, puisque beaucoup de coureurs vont être contraints de venir faire des courses dans l'hémisphère nord, en Europe. Et puis, on sait que climat, c'est aussi lié à déplacement en avion, donc... Voilà, tout ça se mélange un petit peu actuellement, mais oui, il se passe pas mal de choses.
Ouais, alors, comme tu le dis, hein, les trailers sont très, très en contact de la nature, probablement que c'est des personnes qui sont assez sensibles, en tout cas pour une grande partie d'entre eux, aux questions climatiques, parce qu'ils sont en contact avec l'environnement naturel lors de leur pratique sportive. Et puis, en général, c'est des passionnés de montagne comme toi qui y évoluent. En y étant très attentif et donc il constate ces changements. Et c'est vrai que dans le trail, on a entendu, plus j'ai l'impression que dans d'autres disciplines, des athlètes, je sais qu'en France, il y en a quelques-uns qui ont décidé d'arrêter de faire des voyages de longue distance pour faire des compétitions. Sauf erreur, c'est le cas de Xavier Thévenard, hein, qui avait dit qu'il arrêtait les déplacements sur d'autres continents pour faire des compétitions.
Oui, Xavier, il a carrément décrété et appliqué qu'il ne prendrait plus l'avion. Donc aujourd'hui, il fait beaucoup de choses autour de chez lui où il va même, je sais qu'il va des fois même sur des rendez-vous chez son partenaire ON en Suisse, même en vélo. Donc voilà, il va vraiment au bout de sa démarche complètement. Après, d'autres ont réduit. Alors d'autres comme Kylian Jornet, hein, pour ne pas le citer, qui a décidé de réduire considérablement et qui a aussi décidé de ne pas aller l'an prochain à la Hard Rock aux États-Unis, qu'il a remporté cette année pour la quatrième fois, il me semble, le même nombre de fois que l'UTMB. Et il a décidé de ne pas y aller justement pour ne pas impacter son empreinte carbone. Voilà. Mmh. Alors c'est des décisions qui sont très médiatiques. Bon, c'est, je pense que parfois c'est un peu excessif de se dire on prendra plus du tout l'avion. C'est une prise de position. C'est difficile aussi de se priver de certaines courses ou de certains déplacements. C'est vrai que c'est peut-être plus simple de les maîtriser, de les réduire, d'en faire beaucoup moins, d'en faire un tous les 2 ans. Mais c'est vrai que la position de Xavier, elle est peut-être aussi difficile à vivre pour lui de se dire qu'il pourra peut-être plus aller très loin parce qu'il va se faire tirer à boulets rouges après, quoi.
Oui, bien sûr. Et puis c'est un impact sur effectivement. C'est plus un impact médiatique qu'un impact réellement écologique, parce qu'une seule personne qui ne se déplace plus, ça va pas faire une énorme différence. Mais par contre, ces personnes-là, elles ont un impact au niveau de leur communication. Et quand un ultra-trailer qui est aussi connu que Kilian Jornet ou que Xavier Thévenard, eh bien évidemment que ça a une résonance différente que si le premier populaire venu dit de toute façon je vais plus aller aux États-Unis pour faire des courses, et puis voilà, c'est uniquement entre lui et sa conscience. Un athlète qui a une certaine communauté qu'il suit et puis une certaine influence, peut-être qu'il aura un tout petit peu plus d'impact au niveau. Peut-être pas directement des effets sur les déplacements des gens, mais peut-être déjà juste sur la réflexion. Et puis, pourquoi pas commencer à faire discuter dans les comités d'organisation des courses pour essayer de faire en sorte, je sais pas, d'organiser des événements de manière groupée pour que les athlètes européens, lorsqu'ils se déplacent aux États-Unis, puissent réaliser deux, trois courses avec le même déplacement, plutôt que de faire trois allers-retours entre l'Europe et les États-Unis, et éventuellement avoir un impact aussi sur l'organisation plus écologique de leur événement.
Oui, complètement. Hein. C'est vrai que le problème aussi de ces athlètes, c'est qu'ils ont une forte image médiatique, un fort impact auprès de leur communauté. Et comme tu le dis, ce n'est pas un individu qui va foncièrement changer et impacter le bilan carbone du monde. Il a une influence, c'est vrai, sur sa communauté. Mais moi, je bosse par ailleurs avec. Sur des séminaires en tant qu'accompagnateur en montagne, et c'est des gens qui effectivement n'ont pas de communauté, hein, qui sont dans des entreprises, qui font leur boulot au quotidien, mais par contre, ben, on fait venir 250 ou 300 personnes discrètement à Chamonix régulièrement pour des séminaires en montagne de 2 jours, et ça vient de tout le Moyen-Orient, l'Afrique du Sud et l'Europe. Donc ces gens-là, ils ont un impact très très fort parce que c'est des déplacements qui pourraient être complètement dispensés. Mais forcément, personne n'en parle parce qu'ils restent discrètement dans leur coin. Et voilà. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette question à se poser, est-ce qu'on doit communiquer ou surcommuniquer sur ces prises de décision? Moi, je respecte tout à fait ce que fait Xavier et ce qu'il a dit. Après, j'ai peur qu'à terme, du fait de sa notoriété, le moindre écart lui soit reproché. Et puis que, bah, c'est quand même dommage, mais on vit dans un monde moderne et se priver, j'en viens, t'en parlais, d'aller à La Réunion. C'est vrai que moi, je me suis aussi posé la question. Il y a 3 jours, je reçois une invitation pour aller 2 jours aux Canaries. Et bah, pour l'instant, j'ai refusé parce que je trouve ça aberrant aujourd'hui de me dire que toute l'Europe va aller se déplacer pour une présentation d'une chaussure aux Canaries. Donc voilà, j'essaye de grouper, moi aussi. Mais j'irai pas jusqu'à dire que demain je vais me priver de déplacement parce que c'est vrai que ça fait aussi partie de notre monde moderne.
Ouais, évidemment. Et puis on en avait déjà un petit peu parlé. C'est vrai que c'est compliqué voilà, en tant que trailer, tu te dis, bon, mon staff, c'est moi, mon sac et mes chaussures. Quand tu vois des équipes de football avec un staff complet de 50 personnes qui se déplacent au Qatar ou voilà, bon, et finalement, ouais, y a vraiment que le message et que le fait d'avoir sa conscience pour soi ensuite, hein, qui reste. Mais je trouve ça louable. Et je me demandais si c'était pas un petit peu dans l'air du temps, pourquoi pas de certains athlètes ou certains types d'activités, pourquoi pas donner des scores d'écologie. Quand on regarde l'équipe de Suisse ou l'équipe de France jouer un match de foot, lors de la présentation de l'équipe, d'avoir le petit score, et puis ensuite le petit score de Kilian Jornet une fois qu'il fait son UTMB, et puis le petit score de je ne sais quel triathlète qui court Hawaï, pour qu'on se rende compte qu'au cours de la saison, le triathlète, même s'il a fait un stage en Australie, un déplacement aux Canaries et puis un déplacement à Hawaï pour faire les championnats du monde d'Ironman, finalement, il s'est déplacé seul ou avec peut-être une ou deux personnes, et il a un impact qui est beaucoup moins important. Et puis, faut se rappeler que c'est son métier. Je veux dire, quand on est un skieur d'élite, eh ben, on se déplace entre le Canada, les États-Unis, l'Europe, et voilà. Et puis c'est notre métier. Et puis, si on décide de plus aller en Amérique du Nord, on perd tellement de points au championnat du monde qu'on n'est plus dans le coup, quoi. Donc voilà, ça fait partie du système. Enfin, on va pas refaire le monde et les fédérations sportives et leur impact écologique ce soir, mais tout ça pour dire qu'effectivement le sport fait partie de cette immense bulle qui est l'impact écologique qu'on a toutes et tous dans notre activité quotidienne. Et puis ça a un impact sur la planète. On en parlait en off avant de commencer l'enregistrement de cet épisode. Cet été, c'était un petit peu l'été des extrêmes. Alors malheureusement, ça devient une habitude d'avoir des étés des extrêmes. Mais cet été, par exemple, on en parlait en Italie. Il y a un glacier sur lequel il s'est passé une catastrophe. Et malheureusement, on s'attend à ce que ce soit des choses qui arrivent de plus en plus souvent.
Oui, c'est vrai. Moi, j'habite juste en face le massif du Mont-Blanc. Je voyais de chez moi les nuages de fumée dans le couloir du goûter. Et le couloir du goûter, c'est l'accès à la voie normale du Mont-Blanc. Et la voie normale du Mont-Blanc a été fermée pour plusieurs raisons cet été, à la fois pour le risque de ce phénomène de gel-dégel. Et je crois que dans la première fois de l'histoire de l'humanité, parce qu'on peut parler de ça, il y a eu des températures positives cette année au sommet du Mont-Blanc en pleine journée. Donc ça veut dire que, faut imaginer que le sommet du Mont-Blanc n'avait jamais connu de température positive de son existence, donc depuis des millénaires. Plus, il y avait aussi le problème au niveau des refuges de tête rousse et du goûter où il n'y avait plus d'eau. Donc, c'est à la fois le climat, le réchauffement et les chutes de pierres, mais c'est aussi le problème de l'eau et puis l'ouverture des glaciers, parce qu'on sait qu'au niveau de la voie normale du Mont-Blanc qui monte par l'arrêt des Bosses, il y a eu une grosse rimée qui s'est ouverte. Une rimée, c'est une fracture de glace, de glacier. Et en fait, ça fait un trou. Et aujourd'hui, pour aller au sommet du Mont-Blanc, alors je n'y suis pas allé cette année, mais en fait, le passage est devenu très technique. Donc, c'est plus accessible comme avant à Monsieur Tout-le-Monde. Donc voilà, il y a aussi tous ces changements. Et pour savoir, il y a beaucoup de guides qui ne pouvaient plus bosser, donc qui allaient habituellement sur le sommet du Mont-Blanc par la voie tête rousse, goûter et sommet. Et en fait, ils emmenaient leurs clients du côté de la Vanoise ou des Écrins faire, on va dire, de l'Alpe. Alpinisme, parce que le Mont Blanc était interdit par arrêté préfectoral, ça a été carrément interdit. Voilà.
Ouais. Il a été fermé. Et d'ailleurs, les autorités locales se demandaient si, à l'avenir, il ne fallait pas instaurer une saison de fermeture l'été et de fermer l'accès au Mont Blanc pendant une certaine période de l'année, parce que ça deviendrait trop dangereux de manière récurrente.
C'est pas impossible, on voit des zones qui étaient toutes blanches, toutes recouvertes de glaciers avant, qui aujourd'hui apparaissent noires. Il y a une photo qui a circulé qu'on voit très bien à l'œil nu, c'est il y a une espèce de forme d'alpiniste, qui apparaît entre l'aiguille de Bionasset, pour ceux qui connaissent, et le massif du Mont-Blanc. Il y a un endroit où on devine à la forme du rocher. Presque un bonhomme avec un sac à dos. Et c'est vrai que c'est un peu symbolique de voir cet alpinisme noir au milieu de cette grande étendue blanche, quoi.
Et toi qui justement vis dans la région, est-ce que tu as vraiment noté des changements? Alors pas que cette année, parce qu'on va dire que allez, cette année c'était exceptionnel, et comme c'est exceptionnel, ça se reproduira plus. J'ai quand même du mal à croire à ce que je dis, mais bon, admettons. Mais est-ce que toi, ces dernières années, et plus particulièrement cet été, tu as noté des choses? Et j'ai envie de dire pas que cet été, parce que là on est en train de vivre, tu l'as rappelé tout à l'heure, on était en train de vivre un automne estival, et on a basculé dans l'hiver, mais j'ai pas l'impression que ce soit un hiver extrêmement rude non plus.
Alors, à l'échelle de... Ça serait compliqué de dire qu'à l'échelle de 4-5 ans, ça s'est vraiment modifié. C'est vrai qu'on peut... moi, on est le 28 novembre, là, au moment où on enregistre cet épisode. L'an dernier, à cette époque-là, nous, on avait la neige. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de neige. Il fait en moyenne, au plus froid, 5 degrés. Alors, on ne peut absolument pas en tirer des conclusions. C'est plus les anciens qui pourraient en parler et dire que il y a quelques dizaines d'années, on va dire peut-être dans les années 50-60, les hivers commençaient début novembre et ils finissaient fin avril. Aujourd'hui, les saisons, alors moi, on va dire que c'est plutôt agréable, en fait, c'est que les saisons sont vraiment marquées de 3 mois, 3 mois, 3 mois. Voilà. On sait que là, l'hiver, il commence. Là, voilà, on le disait tout à l'heure, on rentre dans le froid. Donc, on est début décembre et on sait qu'on va avoir froid jusqu'à fin février, début mars, au moment où il va commencer, le soleil va pointer un peu plus haut. Après, on va être vraiment dans une période de printemps, puis vraiment une période d'été comme cet été où il a fait vraiment chaud. Et puis, une période d'automne où bah voilà, ça s'éternise un peu jusqu'à rentrer dans l'hiver. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt agréable d'avoir 3 saisons vraiment marquées. Avant, les anciens disaient oui que la neige arrivait beaucoup plus tôt, puis les quantités de neige étaient beaucoup beaucoup plus importantes. L'hiver dernier, personne s'en est trop plaint parce qu'il a fait plutôt froid, il n'y a jamais eu de redoux, mais les quantités de neige ont été très très faibles en montagne. Alors il y a certains secteurs qui ont été gâtés, mais je crois que du côté des Alpes du Sud en France, le Mercantour et du côté d'Isola 2000, les grandes stations, et ils ont très très peu skié. C'était vraiment problématique. Et c'est vrai que c'est peut-être 2-3 degrés qu'on est en train de récupérer et qui sont acquis, hein, parce que on a beau se battre aujourd'hui, on sait qu'en 2050, les 2 degrés, ils seront acquis. C'est les experts du GIEC qui le rapportent, malgré ce que disent les politiques. Et ben en fait, ces 2 degrés dans le sud, ils sont peut-être suffisants pour faire disparaître la neige à partir de 1500 mètres. Nous, on bénéficie peut-être encore de l'effet au sommet alpin, à la fois en Suisse, à la fois du côté du Mont Blanc, où on voit qu'il y a une vraie influence quand les perturbations arrivent de l'ouest et le froid qui est sur les sommets, ben on arrive encore à avoir pas mal de neige. Mais ça va peut-être pas durer.
Ouais, effectivement, on ne sait pas exactement de quoi l'avenir sera fait. En tout cas, je me souviens que quand j'étais gamin, on allait skier déjà souvent au mois de décembre dans des stations de moyenne altitude. Maintenant, c'est quand même de plus en plus tard que l'enneigement est suffisant pour pouvoir aller dans ces stations, avant Noël en tout cas. Et voilà, ça c'est quelque chose que je constate sur la période d'une vingtaine d'années. Et donc du coup, ça se marque quand même. Mais effectivement, comme tu le dis, hein, on pourra toujours avoir des années où on aura de la neige en quantité au mois de novembre. Et puis l'année d'après, quasiment pas de neige jusqu'à mi-janvier. Et puis des fluctuations, il y en a toujours eu. Maintenant, il y a quand même une tendance qui s'inscrit. Et je crois que ça devient indéniable. Et puis, on en discute, on parle de trail avec toi aujourd'hui. Ça a un impact déjà sur la saisonnalité de la pratique du trail. Et puis, en général, sur la sécurité en montagne, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui changent avec ça. Et puis, même en été, quand on n'a pas forcément l'impression que le climat a un impact, eh bien, tout ça peut avoir un impact. On en parlait avant, et en Italie, il y a un glacier qui s'est carrément écroulé avec des personnes qui sont mortes. Et ça peut arriver si ça continue de plus en plus souvent.
Ouais, tout à fait. Hein. C'est vrai qu'il y a des phénomènes qui vont se créer, des chutes de pierres, hein, les endroits. Alors souvent les trails sont pas forcément impactés parce que c'est plutôt les endroits qui subissent l'effet du gel dégel. Alors gel dégel, c'est souvent les faces nord au-dessus de 3500, 4000 mètres d'altitude. Donc aujourd'hui, ces faces-là, on l'a vu dans les drues, on le voit régulièrement. Je crois que cet été encore, il y a eu des chutes de pierres du côté de l'aiguille du Midi, un peu le même phénomène qu'il y a dans le couloir du Goûter. Donc ça, c'est les phénomènes de dégel. Hein. Les températures sont positives. Les endroits où la glace arrivait à faire un peu le ciment entre les rochers, bah, cette glace disparaît et puis bah, forcément, ça, il n'y a plus de lien et tout s'écroule. Après, au niveau changement climatique, c'est sûr que c'est plutôt la chaleur qui va aujourd'hui impacter le monde du sport à outdoor et aussi le manque d'eau, parce que c'est vrai que ça a aussi un impact. C'est-à-dire que souvent, les ravitaillements peuvent se faire à partir de sources d'eau potable en haute montagne ou dans les zones d'alpage. Aujourd'hui, ça va être privilégié pour d'abord les alpagistes, les paysans, les agriculteurs quand ils sont encore présents. Et puis après, pour les refuges de moyenne montagne, et puis après, bah, pour les courses. Et c'est vrai que j'ai entendu dire cet été sur certaines courses que certaines pouvaient être menacées si sur plusieurs dizaines de kilomètres, il n'y avait plus de ravitaillement parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et je sais qu'il pouvait y avoir des interdictions. Alors, coup de chance, il a plu juste avant. Mais voilà, c'était des menaces qui pesaient. Et on sait aussi que... Bah, Vous connaissez parce que vous faites du triathlon et de la course sur route, mais on sait aussi que certaines épreuves peuvent être menacées par les pics de pollution dans les villes. Et ces pics de pollution, je sais que chaque année, du côté des grands marathons, des grandes métropoles, eh ben, ils sont toujours inquiets. À Paris, au mois d'avril, s'il y a un épisode non pluvieux, chaud, longtemps avant, eh ben, au niveau de l'impact sur la santé, il n'est pas exclu qu'un jour on puisse voir des épreuves annulées à cause de la pollution.
Ouais, parce qu'il y a plusieurs types de pollution. En ville, on parle souvent des particules fines, des fameuses particules fines qui sont émises principalement par le trafic motorisé et par le chauffage, qui s'accumulent sur les villes s'il y a des conditions atmosphériques qui sont défavorables ou favorables pour que ces particules restent. En nature, en montagne, quand il y a des grosses chaleurs l'été, on parle plutôt de concentration d'azote qui non de d'ozone qui peuvent être aussi irritants et pas bons en fait pour la santé à partir d'une certaine concentration. Et ces concentrations d'ozone, eh bien, c'est les étés, mais des fois même à la campagne ou en moyenne montagne, eh bien, les concentrations deviennent assez importantes pour qu'il y ait des préavis de sécurité qui soient émis. Et effectivement, comme tu le dis, ça pourrait aussi impacter les courses de trail. En général, quand on parle de la montagne, on parle de l'air pur, on parle de se ressourcer, de s'oxygéner les poumons, etc. Mais on pourrait avoir les années à venir aussi des avertissements, comme tu le dis, sur la qualité de l'air voilà, en montagne, là où on a l'habitude de se dire que c'est le dernier endroit qui nous reste pour respirer de l'air pur, quoi.
Ouais, c'est ça, et c'est vrai qu'on pense à ces endroits. Alors, comme tu le dis, hein, on croit toujours que Chamonix, c'est la vallée où l'air est le plus pur. Et ben, c'est bête, hein, j'y habite, mais j'habite pas loin. Mais la vallée de l'Arve et même Annecy, hein, sont souvent des endroits où les taux de pollution sont élevés. Il suffit de prendre les applications comme Critère ou je sais plus qui donne les indices sur Lyon, sur Grenoble, sur toutes les grandes villes françaises en tout cas. Et on voit que quand c'est pollué à Lyon, c'est pollué à Grenoble, c'est pollué à Chamonix. Et c'est vrai, quand on va traîner un petit peu en cette fin d'année, là, décembre, janvier, quand il n'y a pas beaucoup de soleil et que le fond de vallée, alors on sait que l'air froid est plus lourd que l'air chaud. Donc l'air froid redescend en face, redescend les masses d'air chaude. Et quand on est à Chamonix ou en vallée de l'Arve, des fois, ou un peu plus loin, eh ben on voit un espèce de nuage de pollution qui est lié à ce que tu disais, à la pollution automobile et à la pollution liée aux particules du chauffage. Les cheminées, donc c'est pour ça aussi qu'il y a une grosse politique dans les Alpes pour éviter les cheminées à foyer ouvert. Je sais que ça va être prochainement interdit partout en France. Je crois que c'est même janvier 2023. Voilà, il faut réduire ça. Mais c'est vrai que l'image air pur en montagne et tout, eh ben il peut être rapidement mis à mal et c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri peut-être de surprise, c'est-à-dire d'avoir des interdictions par la préfecture de prendre au départ parce qu'on sera à la fois sur des températures trop élevées, 35, 37 degrés, 38 degrés, mais aussi des pics de pollution derrière. Donc, c'est pas forcément que le danger en montagne. Le danger, il est aussi dans ces gaz qui sont invisibles et qui finalement créent pas mal de perturbations, quoi.
On voit que ça pose pas mal de problèmes, hein, parce que tu l'évoquais tout à l'heure, on a des problèmes à organiser des ravitaillements si les sources en été sont à sec. Et en même temps, bah, s'il fait plus chaud, on doit boire plus. Et donc, ça pose évidemment un problème infini parce que on rentre dans un cercle vicieux. Tu parlais de certaines zones en montagne qui étaient sécurisées parce que, bah, à certaines températures, la roche, les parois, etc., étaient stables et ça devient moins le cas. Et donc, du coup, il y a certaines zones qui vont devenir de plus en plus dangereuses, voire interdites. Est-ce que tu penses qu'on va voir au cours des prochaines années des saisons une saison de trail qui va bouger, qui va devenir peut-être plus tôt ou plus tard dans la saison, et puis des parcours qui vont être radicalement modifiés pour tenir compte de ces impacts?
Un UTMB avec 5 000 de D+.
Alors, non, mais tu veux dire, on pourrait faire de la science-fiction, mais je ne sais pas dans combien de temps, mais dans peut-être 150 ou 200 ans, on pourrait imaginer un UTMB qui passe par le sommet du Mont Blanc où il n'y a plus de glace, finalement. On passe à 4 800 mètres et on redescend d'un côté. Je crois qu'il y a un sommet Alors, j'ai plus le nom et je dirais peut-être une bêtise, mais il y a un sommet pas très loin du Mont Blanc, autour de 3008, qui cette année, pour la première fois, se faisait sans équipement. Voilà. Donc, avant, il fallait y aller crampon piolet, parce que c'était un glacier. Aujourd'hui, le glacier, il a disparu. Donc, en fait, on y va sur du rocher. Voilà. Donc, ça, c'est effectivement peut-être aussi des bons côtés. C'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir aller dans des zones où passer des endroits qui étaient compliqués parce qu'il restait toujours un bout de glacier ou un bout de neige. Mais oui, d'un autre côté, ça va aussi transformer l'approche et peut-être la saisonnalité, hein. C'est vrai que quand on voit aujourd'hui, est-ce que on pourrait faire un UTMB fin septembre ou début octobre? Bah, plutôt oui. Et d'ailleurs, ça serait plutôt joli même.
Bah en tout cas, cette année en particulier, c'est clair que ça n'aurait pas été tellement un problème. Et probablement que ça aurait même été les conditions entre guillemets habituelles de l'UTMB s'il avait eu lieu un mois plus tard. Parce que tu le disais, bah, cette année, il était dans des conditions particulièrement tempérées par rapport aux années précédentes. Et puis, on en parlait au tout début de podcast, tu t'es aussi déplacé sur l'île de la Réunion pour aller assister à la Diagonale des Fous. Est-ce que là-bas, tu as constaté des choses qui ont changé par rapport à des éditions d'il y a plusieurs années, par rapport aussi à ce changement climatique?
Alors non, j'y vais depuis plusieurs années, mais j'y vais de façon très éphémère. J'y vais entre une semaine et 10 jours, donc j'ai rien remarqué. Même au contraire, j'ai trouvé que cette année, dans ma fac et tout, il faisait moins chaud que certaines autres années. Non, moi, sur ce côté hémisphère sud, des changements climatiques, je suis moins alerte et moins au contact de ce qui se passe. Voilà, après, je sais on le voit dans les médias, hein, il y a peut-être plus de cyclones, il y a peut-être plus de perturbations, mais moi, j'ai pas constaté directement de changement. Le changement pour ce qui concerne l'hémisphère sud, c'est plus un changement de comportement de course, de coureur. C'est-à-dire qu'on y reviendra après, mais c'est aujourd'hui quelle approche doit avoir le coureur lambda dans le monde pour pouvoir satisfaire ses envies et ses besoins de course, de passion, sachant, comme me le disait l'autre jour Kylian Jornet dans une interview qu'on avait fait ensemble au mois d'août, là, avant l'UTMB, il me disait en fait le trailer, c'est celui qui a l'affectif le plus fort avec la nature, mais c'est celui qui a l'impact aussi le plus fort derrière.
Moi, je voulais revenir sur un point quand même. On a quand même pas mal parlé, eu égard au climat, de la modification éventuellement des parcours, des compétitions ou autres. Mais en lien avec l'aspect sécurité, qu'est-ce que, à ton avis, ça va changer au niveau de la pratique, mais de la pratique au quotidien, de la pratique de tous les jours? J'imagine que quand une voie est fermée au Mont Blanc ou ailleurs, il n'est pas forcément recommandé d'y aller quand même à ses risques et périls. Si c'est fermé, c'est pour une bonne raison, c'est pas uniquement pour faire joli. Comment sont matérialisées ces fermetures? Est-ce que l'utilisateur, enfin le pratiquant lambda, même celui qui habite pas dans la région, mais qui a l'habitude de vivre dans une grande ville, en région parisienne, en région lyonnaise, et puis qui voudrait venir se faire un tour à la montagne, comment est-ce qu'il peut s'alerter? Comment est-ce qu'il peut s'informer? Comment est-ce qu'il peut surtout respecter ces interdictions? Et qu'est-ce qu'il encourt? Est-ce que tu sais tout ça?
Alors après, des interdictions, il n'y en a pas tant que ça parce qu'il faut prendre des arrêtés municipaux. Puis après, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'administration française entre la préfecture, les mairies et tout. Mais tout simplement, si on revient sur la voie normale du Mont-Blanc, en fait, il y a les gendarmes. Il y a les gendarmes qui sont à l'accès parce qu'il n'y a pas 36 accès pour y aller. Il n'y a en gros qu'un chemin sur la voie normale. Qui est Nidec, Tétrousse, Goûter. Et là, il y a les gendarmes et il y a aussi ce qu'ils appellent une brigade blanche, c'est-à-dire des bénévoles qui sont là pour contrôler que tous les gens qui montent, quand c'est ouvert, ont bien réservé leur refuge et vont pas venir non plus squatter, parce qu'il y a eu cette époque où il y avait une surpopulation en montagne, notamment autour du refuge du Goûter, où on avait beaucoup de gens des pays de l'Est, qui n'avaient pas forcément les moyens de s'offrir le refuge et qui bivouaquaient autour du refuge et laissaient à la fois leurs excréments et leurs boîtes de conserve Donc ça a fait polémique et aujourd'hui, il faut avoir une réservation en refuge pour pouvoir monter. Et quand c'est interdit, bah, tout simplement, il y a les gendarmes. Après, sur d'autres secteurs qui ne sont pas aussi médiatiques et pas aussi engagés que le Mont-Blanc, bah, souvent, c'est des fermetures de sentiers, tout simplement. Voilà. Donc après, il passe qui veut à ses risques et périls. Mais bon, voilà, on rencontre régulièrement des secteurs en montagne qui sont fermés pour éboulement, pour voilà. Alors ça, c'est moi, je trouve qu'en moyenne montagne, on n'en voit pas plus ni moins qu'avant. C'est régulier. Ce qui change vraiment, c'est plutôt, moi, je trouve, pour la pratique en montagne, c'est la problématique de l'eau en montagne, en haute montagne, en moyenne montagne. C'est la problématique de la pollution dans les basses vallées. Et ça va devenir la problématique de la chaleur, parce que cette année, il y a eu des courses au mois d'août qui ont été annulées la veille par arrêté préfectoral à cause de la chaleur. J'ai le souvenir de courses dans les Pyrénées. Les épreuves du samedi ont été annulées, interdites. Et il me semble que celles du dimanche ont eu lieu parce que du coup, il pleuvait. Mais en tout cas, celles du samedi ont été purement interdites. Voilà. Donc ça peut être... Des phénomènes locaux, pourquoi pas aussi, hein, comme les orages ou les tornades qui peuvent survenir du jour au lendemain et surprendre évidemment les organisateurs. Alors, on va dire qu'il y en a toujours eu, hein, ça a toujours un petit peu existé, mais c'est vrai que ce réchauffement climatique, ces 2, 3, 4 degrés qu'on peut prendre l'été en plus par rapport à d'habitude, bah, c'est vrai que c'est problématique pour des politiques de santé et de préservation des hommes et des secours aussi. Des secours, et j'ai même un copain qui organise une course qui m'a dit que cet été, il a organisé, bon, c'était un truc tout bête, hein, c'était sur route, hein, autour de Valence, je crois, un semi-marathon. Et en fait, les gens ont tellement l'habitude de partir sur un semi avec très peu de choses qu'en fait, à l'arrivée, il a eu énormément de défaillances, mais dont 3 défaillances très graves, avec hospitalisation, aussitôt, évacuation par le SAMU. Donc voilà, on est aussi ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus remettre en cause les interdictions qui peuvent être mises en place par les préfectures et les autorités, parce que c'est vrai qu'eux aussi ont des problèmes après de gestion des hôpitaux et des espaces de santé, quoi.
Tu parlais justement de l'équipement, et ça faisait partie de la partie, d'une partie de la question que je te posais tout à l'heure, la question à rallonge. Qu'est-ce que ça change aussi, tous ces changements un peu climatiques au niveau de l'équipement? Je sais pas si nos auditrices et nos auditeurs ont écouté l'épisode, mais en tout cas, moi, je me rappelle très bien de la première fois où on a parlé ensemble, c'était l'épisode 25 de la saison 2, où tu nous avais vraiment rappelé quel était l'équipement minimum nécessaire, limite obligatoire pour tout trailer, qu'il aille sur une compétition ou pas. Et tu nous as longuement parlé de ce fameux fond de sac avec certains matériels vraiment qui pour toi étaient le minimum nécessaire, le strict nécessaire. Est-ce que tu crois qu'avec ce changement un petit peu climatique, les choses évoluent en termes de matériel nécessaire et notamment tout simplement de l'eau? Si on arrive à un endroit et qu'on trouve plus de ravitaillement, comment ça se passe pour un trailer lambda qui n'est pas sur une course? Est-ce qu'il y a un risque potentiel pour sa santé?
Bien sûr, il y a un risque pour sa santé, hein. La déshydratation, c'est un élément très fort des problèmes de secours, hein, sur les trails. Ça arrive régulièrement. Après, on est toujours sur une pratique où les gens aujourd'hui voient les élites qui courent avec très peu de choses, et les élites, ils partent sur une course de 40 bornes, ils partent pour 3h30, 3h45. La plupart du peloton va partir pour 5h, 5h30. Quand le départ est à 8h, les premiers arrivent à 11h. À 11h, les autres seront encore à 2500 mètres d'altitude en pleine montagne. Donc, je pense qu'il faut surtout que les gens ils se responsabilisent. Aujourd'hui, il y a des organisateurs qui adoptent des attitudes à dire bah, « Nous, on ne met plus forcément de règlement. » C'est aux gens d'être responsables et de se dire, voilà, comme ça, c'est... Alors, moi, je n'ai pas forcément d'avis là-dessus. Je trouve que c'est une manière d'aborder la liberté aussi de parcourir les chemins un peu comme on veut. Mais au moins, c'est à chacun de se dire, ah bah tiens, je ne suis pas obligé de prendre ça, ça et ça, et puis je ne vais pas m'en servir. C'est de se dire, bah tiens, là je vais partir pour 5 heures, à telle heure il va faire chaud aujourd'hui, et bah, il faut peut-être que je prenne 3 flasques de 500 plutôt que 2, quitte à en remplir que 2 au début, mais au moins je les ai. Mais je pense que c'est vraiment à chacun de se prendre en main, d'être conscient de là où il part, des endroits où il va. Et je redis ce que oui, j'avais dit, et c'est aussi de toujours penser à avoir un fond de sac, quoi. Un fond de sac, c'est pas forcément grand-chose, mais c'est une couverture de survie, c'est un petit coupe-vent, c'est pourquoi pas une petite trousse à pharmacie, mais sans être la trousse de secours qu'on a habituellement. Ça peut être juste trois pansements, un strap, et puis pourquoi pas
Un spray
aussi.
désinfectant ou voilà, le
Voilà.
minimum.
Ou un collyre ou un truc comme ça pour voilà des choses de base. Mais enfin, quand j'en vois qu'ils sont là à gratter 30 grammes sur un sac à dos, je sais pas si sa sécurité est aussi, parce que je pense que c'est important, la sécurité des autres. C'est-à-dire qu'il faut pas penser qu'à soi, faut aussi penser à la sécurité des autres. C'est-à-dire que son matériel peut aussi servir à quelqu'un d'autre. Je l'ai vu sur une course une fois, un jeune qui est parti à poil. Et qui malheureusement, bon, alors c'était une petite course, hein, 16 km, il pleuvait, c'était au mois d'août. C'est vrai qu'en haut, il faisait pas très froid, bon, il n'y avait pas de danger de mort, mais en tout cas, il a bien été content qu'il y ait un concurrent qui s'arrête et qui lui file sa couverture de survie le temps qu'on vienne le chercher. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui finalement permettent de prendre conscience et aussi d'éviter de mettre les organisateurs en danger. Et de les mettre aussi, enfin, de mobiliser des secours inutilement, quoi. Voilà, c'est aussi tout ça. Moi, je suis assez partisan de la responsabilité des gens, c'est-à-dire de pas non plus tout formaliser, tout légiférer. J'en discutais il y a exactement 2 jours avec un organisateur qui me disait, on ne sait pas quoi faire, est-ce qu'on interdit le matos obligatoire? Parce que c'est une petite course où il y a des ravitaillements régulièrement. Et en fait, ils ont constaté que sur cette course-là, je ne la citerai pas, mais il y avait de plus en plus de coureurs qui partaient avec des sacs à dos, et pour eux, c'est une course de montagne, donc c'est contraire un peu à leur vision de l'épreuve. Et je leur ai dit, bah non, laissez-les. Enfin, moi, mon opinion, c'est non, laissez-les faire. Vous n'avez pas forcément à mettre un règlement qui autorise ni un règlement qui interdit. Vous mettez que chacun est libre et responsable de prendre le matos qu'il entend en fonction du temps qu'il va mettre, du terrain dans lequel il va évoluer et des conditions météo du jour. Voilà. Moi, ça me paraît parfois suffisant. Après, sur des grandes épreuves type ultra trail et tout, c'est vrai que compte tenu des engagements, des accès secours et tout, type UTMB, même Grand Raid, il peut y avoir aussi des conditions météo. Cette année, au Grand Raid de la Réunion, les premiers ont eu des conditions, on va dire, parfaites aussi, pas trop chaudes. Et par contre, la nuit suivante, il a plu toute la nuit. Voilà. La première nuit, il a aussi un petit peu plu, et c'est vrai qu'on sait que quand il passe au niveau du volcan, même s'il passe plus à côté du volcan, mais quand on arrive vers Marabout et tout ça, on sait que les températures sont de l'ordre de 3-4 degrés, mais ça, tout le monde le sait, et ça change pas d'année en année, c'est régulier. Voilà. Et après, ils vont rentrer dans ma FAT et il fera 35 degrés.
Bon après, comme le disait Hermano, c'est peut-être plus en fait dans la pratique de tous les jours, parce que quand on se prépare ou qu'on se rend, que ce soit à La Réunion ou que ce soit à Chamonix pour faire l'UTMB, on a un parcours, on sait ce qui nous attend, et puis là il y a du matériel qui risque bien d'être vérifié au départ, et donc du coup il va pas se passer n'importe quoi. Mais quand on part seul s'entraîner, qu'on se dit bon ce dimanche moi je vais faire ma grosse sortie trail dans la montagne pour m'entraîner pour l'UTMB, et que on part tout seul, on l'avait déjà évoqué avec toi hein, dans l'épisode que Hermano citait tout à l'heure. Il faut qu'on soit équipé parce qu'en montagne, bah, les conditions peuvent changer très vite. La météo peut être radieuse à un moment et puis 45 minutes plus tard, ça peut être absolument l'enfer. Et il faut être prêt. Alors jusqu'à maintenant, on indiquait qu'il fallait plutôt être prêt à se tenir chaud si tout d'un coup la situation devenait très froide. C'est quelque chose que l'être humain sait assez bien faire, entre guillemets, dans le sens où on peut s'habiller plus, où on peut bien s'emmitoufler, essayer de rester au sec avec des vêtements qui sont étanches. Et donc, du coup, on arrive à maintenir de la chaleur. Le problème avec le réchauffement, ou en tout cas les conditions climatiques qui changent, et puis la température qui va devenir plus grande probablement ces prochaines années, c'est qu'on a beaucoup plus de mal à se rafraîchir. Comme le disait Hermano, la seule solution, c'est d'emmener plus d'eau. Et le problème de l'eau, c'est que c'est lourd et qu'on ne peut en emmener qu'une quantité limitée. Donc, est-ce que ça veut dire que les compétitions vont devenir plus compliquées à ce niveau-là? Est-ce qu'il va falloir que les trailers se réinventent au niveau du matériel qu'ils emmènent avec eux? Ou est-ce que, pour toi, il va suffire de partir le dimanche où il ne fera pas pleine canicule et puis qu'on peut continuer à envisager le trail comme on l'envisage maintenant? Voilà, ce sera probablement un paramètre en plus à prendre en compte, en tout cas.
Ouais, je pense qu'il faut que beaucoup apprennent aussi à adapter leurs entraînements et leurs sorties en fonction des aléas climatiques. C'est vrai, quand nous, on habite ici dans une région où on peut pratiquement s'entraîner toutes les heures de la journée. Mais quand on habite dans le sud, on voit très bien que dans le sud de la France ou même dans le sud de l'Europe, qu'il faut forcément aller s'entraîner tôt le matin ou un peu plus tard le soir, parce que sinon, c'est vrai qu'on ne va pas tenir. Donc, il faut absolument adapter. Et ça, c'est vrai qu'on va être obligé de le faire au fil du temps. Ça sera indéniable. Moi, il y a aussi un truc sur lequel je veux revenir, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui vont justement en ce moment, on en a parlé tout à l'heure, l'hiver n'est pas complètement installé, mais il est aussi un petit peu présent dans les faces nord ou dans les faces à l'ombre. Et pour ceux qui iraient s'entraîner à cette époque, il faut être vraiment très, très, très prudent. Et je vais citer un exemple qui n'est pas très drôle. J'ai le souvenir de André Huser qui est décédé il y a 3 ans en arrière, ou 4 ans maintenant, et qui est parti s'entraîner à cette époque, je crois même début décembre, dans une zone où la neige avait légèrement recouvert des sentiers où il y a du ruissellement. Sauf qu'en fait, quand il y a du ruissellement et que c'est des faces à l'ombre, en fait, ça gèle. Et l'accumulation de gel fait des grandes patinoires et en fait, elle a glissé. Et moi, je me suis retrouvé confronté aussi à cette situation une fois en connaissant le terrain. Et je savais qu'en fait, c'est des véritables pièges. Et ça, on a ces phénomènes-là, en entrée d'hiver, mais on les a aussi en sortie d'hiver quand on se retrouve avec des zones où on passe. Et je sais que l'an dernier, il y a encore un ou deux trailers qui sont morts au printemps. Qui vont dans des zones où ils pensent que c'est plutôt safe parce qu'il fait beau en bas, on monte tranquille et tout. Et puis, pareil, on part sans équipement. Ça ne coûte rien de prendre une petite paire de crampons, une petite paire de chaînes quand on doit passer un névé, donc une zone de neige, on va dire un peu dure, qui est restée après l'hiver. Et cette zone de neige, si jamais elle est dure le matin ou qu'elle est à l'ombre toute la journée, on croit qu'on va passer tranquille. Et puis, si jamais on part, on ne s'arrête pas et on va se scratcher plusieurs centaines de mètres plus bas. Et tous les ans, il y a des trailers, faut le dire, qui disparaissent, qui se tuent dans ces conditions un peu changeantes. Et c'est vrai peut-être aussi parce que les saisons il y a moins de neige en épaisseur et donc il faut faire attention. Et là, vraiment, en cette période un peu incertaine, là, je voyais beaucoup de gens qui commençaient à communiquer sur les réseaux sociaux ces derniers jours en disant on attend la neige, on remet les baskets. Et je les voyais courir sur des chemins où il y avait 5-10 cm de neige. Tant que c'est à plat, ça va. Dès que c'est en dévers, il faut vraiment être très, très, très prudent. Et je dirais connaître ce qu'il y a en dessous, si on y passe régulièrement, ou alors se renseigner, mais pas partir en faisant le malin, parce que c'est vrai que souvent ça peut être un aller sans retour.
Ouais, effectivement, donc le changement climatique, c'est au fil des années, mais c'est aussi au cours de la journée. Hein. Ça peut être un gros contraste entre le froid de la nuit et puis la chaleur de la journée, de l'eau qui fond, enfin de la neige qui fond en journée et qui regèle la nuit et qui devient, comme tu le dis, extrêmement piégeux. Pour les personnes qui ne le connaissent pas. Et tu vois, tu as bien fait de l'évoquer dans cet épisode parce que ça me rendra attentif si j'étais amené à faire ce genre d'activité à ce moment-là de l'année. Ça me rendra effectivement très attentif à ce genre de situation.
S'il faut vraiment se méfier, c'est ces petits chemins qui sont en dévers et qui sont à cette époque-là, donc autour de 2000 mètres, où on voit que ça gèle. Et si jamais il y a une petite couche de neige de 5-10 cm dessus, ça, c'est ce qu'il y a de pire. C'est vraiment traître. Donc, il faut vraiment être très attentif. Donc, si à un moment, on devine un petit ruissellement et tout, faut pas essayer de le passer en courant. Il faut plutôt s'arrêter, quitte à gratter un peu la neige avec les mains pour voir ce qu'il y a en dessous et le contourner s'il y a besoin. Mais en plus, c'est de la glace vraiment vive. Hein. C'est de la glace c'est une plaque de verre. Donc, si on part, alors c'est vrai que se tuer, c'est très triste, mais surtout, on peut se faire aussi très, très mal parce que souvent, il y a des cailloux. C'est dans des zones un peu rivières ou mini-torrents ou des arbres un peu plus bas en dessous et on prend très vite de la vitesse. Il n'y a aucun moyen de s'arrêter. Donc, vraiment prudence. Et c'est vrai que j'y repense parce qu'on en parlait l'autre fois avec Ludo Collet à Andrea Huser qui est décédé dans ces conditions-là il y a 3 ou 4 ans et à laquelle on a beaucoup pensé cette année à La Réunion parce qu'elle avait le meilleur chrono sur le parcours.
Bah,
Elle est
du
un peu
coup,
plombée
tu.
dans l'ambiance.
Ouais, t'as un peu plombé l'ambiance, mais comme disait Greg, au moins ça nous rend alerte à ces situations-là. Alors moi, j'y suis pas encore confronté parce que j'habite pas en montagne, mais je suis sûr que dans celles et ceux qui nous écoutent, il y en a beaucoup. En dehors de passer ces petits endroits, peut-être en marchant, en grattant un peu la neige, etc., tu as d'autres recommandations, justement, pour ceux qui seraient pas des montagnards, qui auraient jamais été confrontés à ce genre de situation, pour vraiment bien les repérer et peut-être, comment est-ce qu'on fait pour contourner une zone comme ça? Est-ce que on met des crampons plus grands avant de les passer? Est-ce que on y va avec les bâtons? Comment on fait?
Souvent, c'est des zones qui sont pas très grandes parce que ça se déroule dans la verticalité. L'eau culmine d'amont vers aval. Donc, en général, c'est une petite zone qui peut faire 1 ou 2 mètres. Mais méfiance, tu as raison de le signaler, Hermano. C'est vrai que des fois, ça peut être une zone qui peut être beaucoup plus longue parce que l'eau, si elle n'est pas canalisée ou si on est sur des endroits qui sont pas bien entretenus, en fait, l'eau, elle va cheminer le long du sentier. Et elle peut être gelée sur 10, 15, 20 mètres. Donc, il faut être très attentif à ça. Après, c'est aussi les cailloux qui sont à fleurs quand il neige et tout. Il faut être vigilant à ça. Bon, là, on parle pour nous qui sommes en montagne. Quand même, ça ne représente pas non plus la totalité des gens. Mais c'est vrai que c'est des zones qui deviennent piégeuses et dangereuses l'hiver. Et c'est vrai qu'on n'a pas ça quand on habite au bord de la mer ou en forêt. On peut juste avoir des petites surprises, d'avoir des feuilles qui recouvrent des racines et puis on trébuche et puis on écorche la carrosserie. C'est pas très grave. Mais c'est vrai qu'en montagne, il faut être vigilant. Donc je dirais vraiment se renseigner auprès des gens qui sont des locaux, qui connaissent les parcours, qui connaissent les endroits. Pas négliger son matériel à la fois parce que on va partir 1 heure, 2 heures, même si on est autour de la maison. Mais si jamais on se blesse, on se fait une cheville, qu'on met 3, 4 heures à descendre ou qu'on est pris dans le brouillard, et ben c'est toujours pareil. Voilà, faut avoir cette espèce de fond de sac utile. C'est pas 1 kilo qui vont venir perturber une séance d'entraînement ou une sortie longue en montagne. Voilà. Et puis le mieux, c'est de partir à 2 ou 3. Voilà, c'est ça aussi. Et puis, comme on le disait toujours hein, en montagne, c'est de dire à ses proches où on va. Voilà. Voilà, c'est quelques petites recommandations. Voilà, puis faut être prudent, mais vraiment. Après, je trouve qu'à cette époque, le danger le plus fort, c'est cette espèce de couche intermédiaire où en fait, on n'a pas encore la neige. Et pas suffisamment de neige pour que ça recouvre tous les obstacles. Et au printemps, à l'inverse, il faut faire attention aussi aux ponts de neige et puis aussi à ces trous qui peuvent être créés par endroits et où on peut. On va pas se tuer, je vais dire, mais on peut se faire mal, on peut se faire un genou, on peut se faire une cheville, on peut s'ouvrir. Souvent, il y a des grosses cassures parce que c'est vrai que là. Les épaisseurs de neige étant pas les mêmes partout, et ben voilà, on le sait tous, hein, des fois on fait 10 mètres en courant à plat, puis d'un seul coup on s'en met jusqu'au genou. Donc on peut se faire mal, voilà. Donc c'est vrai que c'est mieux de partir à plusieurs hein, dans ces conditions-là. Voilà. Ou alors de bien connaître le secteur. Ou alors d'y aller avec quelqu'un du pays ou quelqu'un avec qui on a repéré en amont en étant bien sûr qu'il n'y a pas de danger. Voilà. Mais je le redis, ce n'est vraiment pas anodin. Il faut vraiment être très prudent parce que je suis sûr que malheureusement, il y aura bien quelqu'un qui va être victime de ce genre d'accident pendant l'hiver, c'est sûr.
C'est finalement des menaces assez sérieuses, mais les remèdes, entre guillemets, hein, c'est juste des actions de bon sens, en fait. Voilà, pas partir forcément seul, en tout cas, faire attention de là où on va, et puis signaler où on est parti, avoir l'équipement adéquat avec soi, et puis dans la plupart des situations, ça aide déjà beaucoup.
Avoir son téléphone, avoir un système de... Voilà, après, si on part vraiment 5-6 heures en montagne, qu'on est loin, aujourd'hui, il y a des systèmes qui existent. Hein. Greg, je pense que tu le connais par cœur, c'est le InReach de chez Garmin, hein, qui est un système de détection et d'alerte qui ne coûte pas grand-chose. Est-ce que ça doit être mis à disposition, peut-être dans des bureaux, des guides et tout, pour des gens, je ne sais pas, parce que du coup, ça va peut-être pousser les gens à aller... titiller un peu plus les limites. En tout cas, pour ceux qui se connaissent bien et qui ont envie d'aller longtemps en montagne et de partir dans des endroits un peu escarpés, qu'il y ait de la neige ou pas de neige, ce système-là est quand même un bon moyen de secours, à la fois pour rassurer ses proches, mais aussi en cas de besoin ultime de déclencher des secours partout dans le monde sans réseau GSM, puisque c'est le réseau satellite qui fonctionne.
Ouais, exactement. Donc, on a un petit appareil qui se connecte directement au satellite pour envoyer un message de SOS. Il est aussi capable de faire du live tracking, c'est-à-dire d'envoyer à ses proches la position actualisée, par exemple, toutes les 30 minutes de là où on se trouve dans la montagne. Tout ça sans réseau mobile, ça passe par le satellite. Et puis, dans le même genre de gadget, de technologie qui peut être utile, il y a maintenant Apple qui a intégré une communication directe par satellite sur son dernier modèle d'iPhone, qui permet vraiment, en cas de nécessité, eh bien, d'utiliser un réseau de satellites sur orbite basse pour envoyer des messages de SOS. L'iPhone, il n'est pas optimisé pour ça. Hein. Il n'a pas une antenne externe qui est faite pour ça. Donc, la transmission des données prend quand même un peu de temps et il faut bien s'aligner avec le satellite pour que ça marche. Mais a priori, voilà, ça peut être une solution de dernier recours aussi qui permet de signaler qu'on a un problème sans avoir de couverture de GSM. Mais comme tu le dis, si on fait régulièrement des sorties en montagne, comme les personnes qui font du ski hors-piste utilisent forcément, ou en tout cas devraient forcément utiliser un DVA lors de leurs activités, eh bien c'est peut-être pas une mauvaise idée de regarder un InReach Mini ou juste un petit appareil comme celui-là, qui peut être bien utile si tout d'un coup il y a une avarie, un changement météo brutal ou... un petit accident qui se passe et puis qu'on se retrouve à devoir demander de l'aide.
Et d'ailleurs, on en a parlé dans l'épisode 11 de la saison 3. Je ne sais pas si tu t'en souviens, on avait fait une petite revue de ces outils-là.
Ouais, exactement. Et maintenant, voilà, certains fabricants de téléphones intègrent ça au smartphone et donc du coup... on peut espérer que d'ici quelques années, on n'ait même plus besoin de ce genre de gadget. Alors nous, on espère, hein, Garmin pas, mais qu'on n'ait même plus besoin de ce genre de gadget parce que ce sera intégré à notre téléphone. Et donc du coup, on sera tous plus en sécurité, loin des antennes de GSM et de 3G, 4G.
Bon, on a encore fait un bel épisode. Fred, est-ce qu'il y avait des éléments que tu voulais rajouter, que ce soit sur l'aspect justement changement climatique dans sa pratique du trail ou même l'aspect sécurité dans la pratique du trail?
Non, je pense qu'on a dit des choses essentielles. On ne va pas rabâcher pendant plusieurs heures. Après, je pense qu'on pourrait aussi faire un épisode, ce sera peut-être la saison 5 de 2023, mais sur l'impact des calendriers dans le monde du trail et peut-être aussi un peu plus généralement dans le monde du running, sur ce que disait Greg tout à l'heure en début d'épisode, c'est est-ce qu'on doit regrouper les épreuves par continent, par période, un peu comme il y a dans le biathlon, comme il y a dans le ski, comme il y a dans le vélo, où on sait que la saison dans le vélo, elle commence plutôt du côté maintenant des Émirats, de Dubaï, du Qatar, parce qu'il fait chaud et parce qu'on groupe tranquillement là-bas et que c'est moins vallonné. Et qu'après, on se dirige tranquillement vers l'Europe et qu'il y a une petite campagne qui se fait du côté des États-Unis aussi à un moment de la saison. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ça peut mériter un épisode complet parce qu'il y a une vraie problématique de gestion des calendriers, gestion des circuits. Et puis, bah, comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, les skieurs alpins peuvent faire une course ou deux mêmes courses par week-end. Aujourd'hui, en trail, bah, si on part pour un mois aux États-Unis, il va être compliqué de faire une course de 35 ou 40 bornes tous les week-ends. Donc voilà, il y a ça aussi. Il y a à la fois l'impact sur la planète de ces déplacements, l'organisation des calendriers, mais aussi l'impact physiologique, parce que c'est pas sans conséquence. Les ultra-trails aujourd'hui, si on veut déjà avancer un peu les prémices d'un futur épisode, mais par exemple sur une course comme l'UTMB aujourd'hui, pour aller se qualifier, il faut faire dans les 3 premiers d'une épreuve event ou dans les 10 premiers d'une épreuve major. Donc ça veut dire que certains coureurs qui pourraient ne pas être prêts, hein, c'est vraiment des éléments que j'entends dans les coureurs élites, mais par exemple un coureur qui voudrait se qualifier pour l'UTMB 2023 devrait aller faire une course et être dans les 3 premiers pour être directement au départ. Et si jamais il voit que la start list elle est un peu trop dense et qu'il ne se sent pas complètement prêt, il va se dire bah, je ne vais pas faire dans les 3, donc j'y vais pas, bah tiens, je vais aller plus loin, ou je vais décaler de 15 jours et je vais aller à une épreuve qui va m'obliger à prendre l'avion. Mais voilà, il y a un peu ces organisations de calendrier qui peuvent, à terme, bah, générer à la fois des problèmes chez les coureurs, mais aussi des problèmes de prise de conscience dans ces déplacements.
Ah ouais, on le voit sur marathon, on le voit sur triathlon. Quand on n'est pas dans le coup au kilomètre 18 du marathon, on s'arrête. On se préserve physiquement, puis on fait la course du week-end d'après pour essayer de gagner, ou en tout cas de bien figurer, mieux figurer. On le voyait aussi sur les Ironman, hein, très clairement, quand Ironman avait remis les slots purs et durs, même pour les athlètes pros, donc il fallait finir dans les 3 premiers ou 4 premiers de la course pour se qualifier. Quand on voyait qu'on n'était pas dans le coup après 60 km de vélo, eh ben, on n'insistait pas, on s'arrêtait, on se disait bah, ce sera pour la prochaine. On faisait sa course en Malaisie, et bah, la semaine d'après, on faisait une course en Allemagne, et puis ensuite, on faisait une course aux États-Unis pour essayer de se qualifier. Et comme tu le dis, est-ce que ça fait sens aujourd'hui? C'est effectivement un vaste débat, et on pourrait effectivement prévoir un épisode sur cette thématique à l'avenir.
On prend bonne note, on met ça dans la ouais. liste. Ouais, super. Fred, pour terminer, même si on t'a déjà entendu à plusieurs reprises sur le podcast, où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on suit ton actualité?
Ah bah alors l'actualité, elle est brûlante d'hier, hein. Donc là, puisque on m'a convié à aller animer, enfin être consultant sur la web TV de la Saint-Élion. Et d'ailleurs, c'est un élément intéressant dont on peut parler, c'est que je m'attendais encore une fois à avoir des températures froides, presque la neige et tout. Et en fait, ils annoncent pour cette année un départ à Saint-Étienne avec une température qui serait autour de 7 degrés. Donc voilà, c'est aussi peut-être un des éléments de ce qu'on disait tout à l'heure tous les trois, c'est qu'on a un automne qui continue, un hiver qui a du mal à s'installer. Et ben ça confirme, c'est-à-dire que samedi, là, dans 2 jours, ce sera le 3 décembre, et ben on devrait avoir une Saint-Élion sans doute sans température négative, avec un départ à 7 degrés, ce qui est presque exceptionnel. Je n'ai pas les archives pour savoir, mais c'est vrai que j'ai plutôt vécu des départs où, entre la neige, la pluie, le froid et le vent qui rafraîchissait bien l'atmosphère, on était plutôt sur des températures proches de zéro habituellement. Donc voilà, aussi un des effets. Donc je serai à la Saint-Élion pour faire le suivi live sur le plateau télé. Puis après, bah, ça sera l'époque un peu de la trêve. Et moi aussi, qui avant essayais de me dire, bah, tiens, je pourrais peut-être aller sur une course à Hong Kong au mois de janvier et tout. Et ben là, je vous dis, pour une présentation de produits aux Canaries au mois de février ou mars, et ben pour l'instant, j'y vais pas. Voilà. Donc, je vais plutôt rester dans les Alpes et essayer de trouver d'autres solutions pour ces choses-là. Je pense qu'il faut aussi réfléchir à ça, qu'on retombe pas dans le panneau avant Covid, quoi. Voilà.
Ouais, alors effectivement. Et puis, du coup, les auditeurs et auditrices de l'épisode, au moment où il sera mis en ligne, la Saint-Élion aura déjà eu lieu. Donc, j'espère qu'il y aura un replay sur le web TV de la Saint-Élion. Mais comme tu le disais, on a l'habitude sur cette course de voir des flocons ici et là sur certaines images, sur certaines vidéos. Cette année, peut-être que ce ne sera pas le cas. Peut-être que ça courra en short et en t-shirt. En tout cas, on te souhaite un bon week-end entre Saint-Étienne et Lyon. Une bonne course pour toi. Et puis ensuite, un excellent hiver. J'espère qu'il y aura du ski quand même. J'espère qu'il y aura des belles activités dans nos Alpes respectives, que ce soit chez toi du côté du Mont Blanc, chez moi dans les Alpes vaudoises ou bernoises ou valaisannes. Et puis Hermano, il y a un peu moins de montagnes là où tu te trouves maintenant. Mais...
Ouais, bah, pas tant que ça, je suis pas très loin des Pyrénées, je suis à Castres, donc j'ai un peu de route à faire pour aller dans les montagnes, mais je suis plus proche de la vraie montagne que quand j'étais à Luxembourg.
Eh bien écoute, j'espère aussi que tu auras une saison d'hiver remplie de beaux défis, mais toi t'en prépares un magistral pour l'année 2023, donc peut-être que tu vas continuer quand même à courir et à nager. Et puis, je voulais dire à toutes les auditrices, tous les auditeurs du podcast qui ont été fidèles encore pour cette quatrième saison, merci. Passez une bonne fin d'année, une bonne période de fête. On est un petit peu tôt cette année pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, mais comme c'est le dernier épisode de la saison, on va pas s'en priver quand même. Et puis, on se retrouvera peut-être, peut-être pas pour une cinquième saison. Ça, c'est des choses dont on va discuter. On va poser ça à plat et puis voir ce qu'il advient. Mais en tout cas, vous retrouverez Hermano l'année prochaine derrière son défi Agrippa. Vous trouvez Fred Bousseau dans de nombreux autres podcasts, médias et puis sur le commentaire de course de la Saint-Élion si il est disponible en ligne. Et quant à moi, je suis toujours derrière les manettes de Nakan.ch.
Super, merci à tous les deux. Fred, merci d'avoir mis ton bonnet de Père Noël pour finir la saison avec nous. On espère qu'on se retrouvera l'année prochaine, peut-être justement pour reparler de l'organisation des calendriers des courses et pas que des trails. Et puis d'ici là, un gros bisou à toi. Merci d'avoir encore accepté notre énième invitation et on espère vous retrouver toutes et tous l'année prochaine.
À bientôt.
Merci et bon courage à toi pour ce fameux défi Agrippa qu'on suivra de près.
Merci, merci beaucoup. Ciao. Ouais, carrément. Et puis en plus, tu l'as dit, on a Fred avec nous. Fred qui connaît bien le sport, le trail, l'ultra trail. Et puis en plus, Fred qui est parti d'ailleurs.
Fred qui connaît tellement bien qu'il est parti.
Qu'il est parti.
Voilà.
Bon, on va attendre qu'il revienne. On mettra ça en bonus. Donc exact. Tu noteras 2 minutes.
Ouais, c'est peu après le départ. Hein.
C'est ça.
J'ai une coupure de wifi d'un seul coup.